France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et avec Alexandra Ben Saïd, notre invité ce matin est magistrat depuis 2011. Il est procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Il quitte ses fonctions pour devenir procureur général près la cour de cassation. Vos questions, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et via l'application France Inter. François Molins, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être ici à France Inter. Vous êtes devenu, François Molins, un visage familier qu'on a malheureusement pris l'habitude de voir lors des points presse que vous avez tenu après chaque attentat depuis 2012, Toulouse, Charlie Hebdo, l'Hypercacher, le Bataclan, les terrasses de Paris, Nice, et je ne les cite pas tous. La précision des faits que vous apportiez marquait d'une certaine façon la permanence de l'état de droit au cœur de ces tragédies. Votre carrière ne se résume pas à ces années terribles, François Molins, mais j'imagine qu'elles vous marqueront à jamais.
Oui, c'est sûr que je viens de passer 7 ans au parquet de Paris à la tête d'une équipe extraordinaire. Et puis j'ai vécu une époque véritablement hors norme, qui a été marquée effectivement par ces campagnes d'attentats de masse, dans lesquelles on a vécu des horreurs, mais qu'on a eu la force collective de surmonter. Et on a relevé ces enjeux sans sacrifier aucun des autres enjeux qui se présentaient. Et c'est ça, je crois, peut-être la problématique majeure du parquet de Paris, effectivement, c'est que vous avez à gérer une telle masse de contentieux que vous ne pouvez pas vous permettre de faire des choix en disant ça, je traite pas. Vous avez vraiment une obligation de tout faire et de tout faire au mieux.
On a encore beaucoup de questions, évidemment, à vous poser sur le terrorisme avant de voir les autres enjeux. Permettez encore une question. Quel sentiment vous traversez lors de ces point presse alors que vous deviez présenter le visage impassible de la justice?
Il y a beaucoup d'anxiété et de stress dans la préparation. Et puis, une fois que le point presse commence, on est concentré sur l'exercice et les choses se passent normalement. Mais je pense que c'est un peu comme quand vous montez sur une scène, c'est l'avant qui est difficile. Après, effectivement, on a simplement la conscience de la gravité de ce dont on est en train de parler. Et puis, moi, je m'évertue à faire les choses de la façon la plus objective possible. Il y a toujours de l'émotion. L'émotion, il faut aussi la contenir parce qu'il ne faut pas qu'elle prenne le pas sur la pratique professionnelle et sur l'exigence de rigueur et d'objectivité.
Donc, les termes précis, les termes techniques, les termes juridiques, c'est aussi une manière de tenir cette émotion à distance.
Tout à fait.
Alexandra ?
On sent encore l'émotion ce matin, François Molins.
Il y en a toujours un peu.
Vous pensez à qui ? Vous pensez à quoi ?
Je pense à la richesse et à la densité de tout ce que j'ai vécu pendant 7 ans.
Aujourd'hui, vous diriez que l'état de la menace terroriste en France, vous la qualifiez comment ? Vous le qualifiez comment, cet état ?
Elle a changé, la menace. D'abord, on assiste au tarissement des filières irako-syriennes. Il n'y a plus de départ pour la Syrie. Il n'y a plus que deux poches, en réalité, dans la moyenne vallée de l'Euphrate et dans la région d'Idlib. La menace exogène, donc le risque d'action extérieure, existe toujours, mais il est quand même plus réduit qu'en 2015, même s'il y a toujours le risque de surenchère d'autres organisations comme Al-Qaïda. La menace aujourd'hui, elle est surtout endogène, avec une menace qui est plus durable, plus diffuse, et qui est différente aussi dans la mesure où le risque, c'est de voir passer à l'acte de façon isolée des individus radicalisés qui vont être inspirés par la propagande mortifère de Daesh. Parce que cette propagande, au-delà de l'état de la situation militaire, cette propagande, elle continue à exister. C'est le djihad par la langue, comme on dit. Et ça continue effectivement à fonctionner et ça peut inspirer effectivement d'autres individus de passer à l'acte.
Donc des gens qui vivent ici, se radicalisent d'eux-mêmes ou en tout petit groupe ou via Internet, c'est ça le vrai problème aujourd'hui. On peut avoir le sentiment trompeur que les choses sont redevenues plus normales, plus calmes. Est-ce que c'est une folie que même d'éprouver ça ?
Je suis toujours très prudent avec ces pronostics puisque...
C'est un sentiment que je partage.
Avec ce sentiment, c'est que quand on regarde derrière nous, on s'aperçoit que les processus sont parfois cycliques et qu'on a déjà eu dans les années précédentes à traverser 4, 5, 6 mois sans aucun attentat terroriste et puis une reprise. Donc on est, je pense, effectivement dans un contexte dans lequel tous les services, notamment de renseignement, travaillent d'arrache-pied pour essayer de judiciariser tous les renseignements qui sont judiciarisables et écarter ce type de menace. Mais on n'est jamais, je pense, à l'écart d'un risque de survenance d'une action isolée.
Donc vous nous parlez en fait de cette principale menace qui existe chez nous. Quand vous dites endogène, c'est en France, ce sont les gens qui se radicalisent. Avons-nous appris à lutter contre cette radicalisation? En faisons-nous assez, François
Molins? On a beaucoup progressé dans ce domaine. Depuis la fin de l'année 2011, on a beaucoup progressé, d'abord parce que la loi nous donne effectivement des outils supplémentaires. Il y a une coordination beaucoup plus efficiente aujourd'hui et beaucoup plus serrée des services de renseignement sous le chef de file de la DGSI, donc qui est chef de file au niveau des services de renseignement. On a beaucoup progressé sur la détection des signaux faibles à travers une organisation qui fait que les services se parlent beaucoup plus. On a enfin progressé avec un processus de judiciarisation qui est fondé sur une vraie relation de confiance entre l'ensemble des services de renseignement, notamment la DGSI et la DGSE et le parquet, chacun respectant l'autre. C'est-à-dire que le parquet va respecter la liberté de manœuvre des services de renseignement et les services de renseignement respectent l'indépendance du parquet. Et ça, c'est quelque chose, moi, que j'ai vu beaucoup progresser au fil des années qu'on a vécu.
François Molins, combien de revenants en France? Le terme a été critiqué, mais il est frappant et il permet de qualifier ces djihadistes partis faire la guerre et qui rentrent après la défaite. Combien de revenants aujourd'hui et sont-ils aussi plus dangereux que les sortants, ceux qui ont été arrêtés, emprisonnés et qui doivent un jour ou l'autre sortir de prison?
Je pense qu'il faut se garder de tout préjugé sur la dangerosité et traiter, j'allais dire, c'est un peu du risque zéro, un principe de précaution. On en a judiciarisé 232 précisément, c'est-à-dire qu'en principe, toute personne qui revient de Syrie, effectivement, va être judiciarisée dès lors que l'examen de sa situation par les services de renseignement va permettre d'objectiver des éléments d'appartenance à l'organisation et des éléments donc d'association de malfaiteurs terroristes. Donc 232 judiciarisés.
Et les sortants? C'est un problème, un vrai problème.
Les sortants, c'est un autre problème, effectivement, qui est logique et qui est dans l'essence des choses, puisque toute personne qui a subi sa peine a vocation à sortir de prison. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est sous la responsabilité du ministère de la Justice et de l'administration pénitentiaire, qui serait peut-être mieux à même que moi d'en parler. Tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que c'est un problème qui nécessite et qui entraîne aujourd'hui un travail d'organisation et de réflexion extrêmement serré, pour s'assurer que chaque sortant est effectivement pris en compte, soit dans le cadre d'un suivi judiciaire, s'il a des obligations à respecter sur le plan judiciaire, soit par des services de renseignement. L'essentiel étant qu'il n'y ait pas de trous dans les mailles du filet et que chacun soit effectivement fasse l'objet d'une vigilance et d'un suivi attentif. Mais c'est effectivement l'un des enjeux majeurs des prochaines années qui, compte tenu effectivement du nombre de peines prononcées et donc des libérations qui suivront nécessairement.
François Molins, on a appris hier qu'un des officiers de sécurité chargé de protéger RIS, le patron de Charlie Hebdo, a été écarté pour des soupçons de radicalisation. On tombe un peu des nues. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Oui, j'ai été aussi étonné que vous. J'en sais pas plus que vous, puisque j'ai lu ça hier dans la presse. Mais je pense que c'est un risque qui... On a déjà vu ce type de phénomène dans la police, dans la gendarmerie, dans les entreprises publiques. On peut peut-être se rassurer en disant que c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel et que...
Ça concerne combien de personnes dans la police?
Je pense que c'est quelques unités, mais il y a quand même aujourd'hui un certain nombre de dispositions, effectivement, qui permettent à l'administration, lorsque on détecte ce type de comportement, de se séparer de ce genre d'individus qui n'ont effectivement, si c'est vrai, pas grand-chose à faire dans le service public et dans l'exercice de certaines missions.
L'arsenal antiterroriste, François Molins, s'est complété au fil des attentats. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il est complet, que la France a tous les moyens nécessaires pour pouvoir lutter contre ces phénomènes?
Il a beaucoup progressé. J'aurais pas la prétention de dire qu'il est parfait, puisque... les situations évoluent, les problèmes évoluent, donc il faut en permanence
adapter,
avoir des outils et des textes de loi qui sont bien adaptés. Mais je pense que globalement, il est intéressant, il est pratique, il est efficace et je crois surtout qu'il a été fait en réalisant, et ça je pense que la France peut s'en enorgueillir, une forme d'équilibre entre les nécessités de l'ordre public et de la répression et la protection des libertés. Et je pense que là-dessus, avec le recul, L'état d'urgence a duré un peu plus de 2 ans. Moi, je trouve qu'on peut porter un regard plutôt positif sur ce qui s'est passé, puisque on a su à la fois conjuguer l'exercice de pouvoir exceptionnel de police administrative avec la sauvegarde des libertés individuelles, puisque ces libertés publiques, expression, réunion, manifestation, n'ont à aucun moment été menacées. Et puis, je vous rappelle aussi que le système fonctionne, puisque à travers les questions préjudicielles de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a été amené, si je me souviens bien, à 4 reprises, a estimé contraire à la Constitution des mesures de police qui avaient été édictées par le législateur. Donc je pense qu'on est dans un système qui a su effectivement assurer ses équilibres, répression et maintien effectivement de la proportionnalité.
Donc vous ne craignez pas, comme certains, que cet ensemble de dispositions conçues, pensées contre le terrorisme djihadiste puisse servir à faire de la police d'autres choses et à inquiéter d'autres citoyens et à limiter leur liberté publique?
Non, à partir
vous n'avez jamais vu ça, vous n'avez jamais douté.
À partir du moment où on respecte les fondements de l'état de droit.
François Molins, en quittant le ministère de l'Intérieur, Gérard Collomb nous a alarmés. Il a fait un discours et il a dit « Dans les quartiers sensibles, au Mirail à Toulouse, en banlieue parisienne, à Aulnay ou encore dans les quartiers nord à Marseille, c'est, je cite, « la loi du plus fort qui s'impose, celle des narcotrafiquants et des islamistes radicaux, une loi du plus fort qui a pris la place de la République ». Est-ce que vous partagez ce constat terrifiant ?
Je ne sais pas si j'irai jusqu'à dire qu'elle a pris la place de la République, dans la mesure où, moi j'ai travaillé plus de 5 ans au Seine-Saint-Denis, il n'y avait pas de quartier dans lesquels la police n'allait pas. Donc je ne pense pas qu'on puisse parler à ce stade-là de zone de non-droit. Par contre, il est certain qu'il y a des quartiers dans lesquels ont été instaurées des formes de caïda à la tête de trafic très important de succession de stupéfiants, parfois d'ailleurs avec des connexions avec
le terrorisme,
l'islamisme radical. Ça c'est certain, on avait vu dans certaines banlieues des quartiers rester tout à fait à l'écart de certaines violences urbaines, justement parce qu'on voyait bien qu'il fallait protéger des trafics qui pouvaient continuer à prospérer.
Vous pensez à quel quartier ? On a beaucoup parlé de Marseille.
Je ne veux pas donner des noms, mais ça sera des quartiers de Seine-Saint-Denis, mais on en avait ciblé 4 ou 5 qui étaient parfaitement identifiés. Donc je crois que c'est effectivement une préoccupation majeure, qui n'est pas nouvelle.
Il y a quand même une part de vérité dans
ce qu'a dit Gérard Collomb. C'est une préoccupation majeure dans laquelle il faut effectivement reconquérir des territoires et adapter peut-être la lutte contre les trafics de stupéfiants en adaptant le travail de la police et de la justice à l'évolution des formes de trafic. On sait par exemple, aujourd'hui, on a des plateformes de livraison. Ben, on ne travaille pas de la même façon avec ce type de trafic qu'avec celui avec lequel on travaillait il y a 10 ans.
Alors justement, une question sur ce trafic de stupéfiants. On a vu, on voit l'ancien patron de la police antidrogue qui est sous le coup d'enquête. On a le trafic, on vient d'en parler, qui continue dans les cités. Est-ce qu'on est dans une impasse face à la drogue en France ?
François Molins.
Je ne sais pas s'il faut parler d'impasse, on est certainement face à des difficultés. Moi je pense qu'on a peut-être trop privilégié la culture du chiffre et la culture des quantités saisies. Et qu'il faut peut-être redéployer l'action des services répressifs vers quelque chose qui soit davantage une logique d'objectif, une logique de répression de filières d'approvisionnement et sortir finalement d'un système dans lequel je me dis que l'information est peut-être cloisonnée. C'est la réflexion que nous fait aujourd'hui sur Paris, qu'on partage avec le préfet de police. On a eu une réunion sur ce plan il y a quelques jours. Il faut peut-être davantage travailler ensemble, travailler moins sur des logiques de territoire, mais avoir une vision plus globale des phénomènes, savoir dépasser les frontières territoriales des compétences des uns et des autres, savoir mieux se coordonner, et puis peut-être, alors là je parle pour la justice, avoir une coordination qui soit peut-être plus nationale, et qui permette d'assurer une véritable coordination entre les juridictions interrégionales spécialisées sur le plan opérationnel, pour pouvoir mieux travailler et mieux contrôler les offices centraux, et mieux, j'allais dire, s'attaquer au spectre haut de la criminalité organisée. Mais ça, je pense que nos responsables l'ont compris, puisqu'il y a dans le projet de loi qui est en cours de discussion devant le Parlement, dans le cadre du projet de loi porté par la ministre, une disposition qui donnera au parquet de Paris la coordination en matière de livraison surveillée. Ça, je pense que c'est une bonne chose. Il faut aller dans ce sens-là.
De livraison surveillée ?
Des livraisons qui consistent effectivement à faire tomber des trafiquants sur la base d'observations grâce à des gens qui sont dans les réseaux, dans des rôles mineurs.
Vous avez eu beaucoup de dossiers entre les mains. Certains posent de vraies questions de société et puis même de définition de la justice, François Molins. Si on prend le dossier du Mediator, par exemple, ouvert depuis 7 ans, 2 ans d'investigation nécessaires, 2 ans, bon, c'est voilà ce qu'il a fallu pour investiguer. Qu'est-ce qu'il s'est passé depuis 5 ans ? Pourquoi autant de temps pour un dossier de ce type ?
Les juges d'instruction, et c'est une très bonne question, les juges d'instruction avaient bouclé leur dossier consacrant 2 ans et demi, à peu près, aux investigations. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, il s'est passé que la défense, comme elle en a le droit, a souhaité utiliser les procédures pour multiplier les moyens de nullité, ce qui a eu pour effet de retarder considérablement le cours de la justice. Alors, c'est un droit, effectivement, qu'a la défense. Ça peut peut-être inciter, effectivement, à se poser des questions par rapport à l'utilisation qui est faite de certaines dispositions et qui peut conduire, effectivement, à paralyser le cours de certaines procédures et empêcher certaines victimes de venir dans des délais raisonnables, je dis bien raisonnables, devant la justice pour pouvoir faire entendre leur voix et demander ce qu'elles estiment.
Il faudrait réformer là pour accélérer un peu le rythme, parce qu'on peut dire 2 ans d'investigation, 2 ans pour la défense, ça fait 4, ça fait pas 7. Et là, tout le monde pourrait s'y retrouver.
Je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir par rapport à ça, parce que j'ai un plus grand respect pour les droits de la défense, mais je pense aussi que les nécessités, effectivement, d'affaires de ce type conduisent à une obligation de pouvoir les juger dans des délais qui soient rapides et raisonnables. Et là, il y a un constat à faire, c'est clairement pas le cas.
François Molins, vous avez eu aussi à traiter de nombreuses affaires politico-financières. Alors là, on a eu des perquisitions qui ont été effectuées dans les locaux de la France Insoumise et au domicile de certains de ses membres. Jean-Luc Mélenchon a déclaré, on l'a bien entendu, fortement, que toutes ces opérations de police étaient politiques et ne pouvaient qu'être connues du pouvoir, voire menées à son instigation. Il a parlé de coups montés depuis l'Élysée. Comment vous avez reçu, vous, membre du parquetier, ces accusations?
Écoutez, je crois en 7 ans avoir manifesté mon indépendance. Je ne suis pas du style à recevoir des instructions. Ça, certainement pas. Tout ce que je peux vous dire dans ce dossier, c'est que cette affaire, on n'est pas allé la chercher. Elle est venue au travers de 3 signalements, une dénonciation, un signalement de Tracfin, un signalement de la commission des comptes de campagne qui nous ont conduit à ouvrir 2 enquêtes. Dans le cadre d'enquêtes financières, tout le monde sait qu'on a besoin de perquisitions. Il y avait un certain nombre de sites, donc ça a été un peu compliqué à organiser. Ces perquisitions, nous n'en avons parlé à personne. Personne n'était au courant.
Personne.
Ni la ministre de la Justice, ni même ma procureure générale qui a été avisée par SMS le jour des perquisitions à 7h15. Donc le parquet de Paris était seul avisé de tout ça avec l'office central. Et je pense que les conditions dans lesquelles effectivement ça s'est passé, c'est la preuve vivante effectivement de l'indépendance de la justice et de son impartialité dans ce dossier.
À propos des conditions justement, Mélenchon, je reviens sur lui, hein, il indique aussi qu'elles ont été quand même démesurées et que celles menées pour l'affaire Benalla l'ont été avec moins de vigueur et plus d'égards.
Elles n'ont pas été démesurées. Quand vous avez des perquisitions à réaliser sur 10 sites, vous êtes obligé d'avoir un certain nombre de policiers et de magistrats. Je rappelle d'ailleurs qu'elles ont été autorisées par un juge, un magistrat du siège, hein, ces perquisitions. Je note enfin que, à l'exception de celle au siège donc de ce parti, toutes les autres se sont déroulées sans aucun incident. Donc il y a peut-être des réflexions.
Quand
effectivement,
il fait la comparaison, Jean-Luc Mélenchon, sur le côté démesuré. Alors vous dites non, c'est pas démesuré, mais sur la différence de traitement entre 2 affaires qui ont à voir avec la politique, est-ce qu'il a nécessairement tort?
Je vois pas faut pas comparer les dossiers. En tout cas, je vois pas de point commun entre l'affaire Benalla et l'affaire Mélenchon.
On parle de l'ampleur du dispositif.
Non, on a eu un tas d'affaires quand on est allé perquisitionner chez Big Malion. Vous en souvenez peut-être, c'était aussi une opération qu'on pourrait qualifier de disproportionnée, qui a duré toute la nuit, jusqu'au petit matin, alors qu'on avait commencé vers 18h30, 19h. Donc c'est pas... On fait notre travail, encore une fois, avec impartialité, en toute indépendance, et en réalisant des opérations dont on sait qu'elles sont indispensables à la manifestation de la vérité.
Mais il reste toujours, François Molins, un soupçon. En tout cas, il est instrumentalisé dans le débat public. On peut s'en servir comme d'un argument. De telles accusations ne seraient-elles pas définitivement levées si le parquet était totalement indépendant du pouvoir politique?
Je pense que on a progressé dans l'indépendance grâce à la loi du 25 juillet 2013 qui interdit aux ministres de donner les instructions individuelles. Il faut certainement aller plus loin. Tout ce que je peux vous dire, moi, c'est que je souhaite vraiment, moi, à titre personnel, que puisse aboutir le projet de réforme constitutionnelle qui a été lancé par le président de la République, qui pour moi est un minimum, qui alignerait les conditions de nomination sur les juges du siège, puisque l'avis du Conseil supérieur de la magistrature serait un avis conforme, nécessairement, et qui alignerait le régime disciplinaire aussi sur celui des magistrats du siège.
Une indépendance claire, totale, absolue, ça ne vous semble pas encore plus simple?
Ça poserait des problèmes, je pense, dans la mesure...
Alors justement, voilà. Qu'est-ce qu'on gagne à ce que la situation soit ce qu'elle l'est? En quoi un parquet non indépendant, entre guillemets,
est-il
plus efficace ou vertueux?
À avoir un principe de cohérence dans l'application des politiques pénales et d'égalité du citoyen. Il faut quand même, j'allais dire, sur l'ensemble du territoire national, que l'ensemble des parquets applique une politique pénale dans les grandes lignes, est un minimum de cohérence et assure une égalité entre les citoyens. Qu'est-ce que diraient les Français si, en matière par exemple de violences faites aux femmes, le parquet de Paris avait une ligne et une politique particulière, et le parquet de Bayonne avait une politique tout à fait opposée? Je pense qu'il faut un minimum de cohérence par rapport à ça. C'est ça effectivement qui décline l'exercice. D'un côté, effectivement, on anime une politique pénale dont les grandes lignes sont déterminées par le ministre de la Justice et le gouvernement. Et ça, j'allais dire, c'est aussi une exigence de cohérence et c'est quelque chose auquel les gens ont droit. Et puis, à côté de ça, vous avez la déclinaison des affaires individuelles. Et c'est dans le cadre de la déclinaison des affaires individuelles qu'il faut effectivement que cette indépendance et cette impartialité soient assurées et qu'il faut qu'on arrive à sortir de cette culture du soupçon. Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus.
François Molins, une question sur ces affaires qui touchent les partis politiques. Est-ce que certaines, qui ne relèveraient pas de la crapulerie, nous disent aussi quelque chose sur le financement de la vie politique en France? Est-ce qu'il y a encore des améliorations, de votre point de vue d'observateur, à faire?
Et acteur?
Je pense qu'on a déjà progressé. Je rappellerai quand même que le système sur lequel on fonctionne résulte de lois qui ont été votées par le Parlement, hein, à la suite des grands scandales de financement politique de la fin des années 80, du début des années 90. Donc je pense qu'avec ça, on a beaucoup progressé. Est-ce qu'il faut encore progresser? Il y aura certainement une réflexion à avoir. En tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je pense que la justice fait son travail dans ce domaine-là et applique au mieux, de la façon la plus honnête et impartiale, les règles qui ont été édictées par la représentation nationale.
Allez, on passe au standard de France Inter. Bonjour Joël.
Oui, bonjour.
Bienvenue, on vous écoute Joël.
Oui, bonjour Monsieur Demeurand et bonjour à votre équipe là. Bonjour Monsieur Molins.
Bonjour.
Je voulais vous poser une question par rapport aux milliers de migrants qui affluent en Europe, si parmi eux, on peut redouter qu'il y ait des cellules dormantes de terroristes. J'avais entendu il y a quelque temps que, pendant la guerre de Syrie, les terroristes prenaient les cartes d'identité des personnes décédées, soldats ou civils.
Merci Joël pour cette question. François Molins vous répond.
Bien sûr, c'est un risque et ça fait partie effectivement de, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais des phénomènes effectivement qu'il faut traiter. Parmi ces migrants, il y a des tas de gens qui sont là pour des raisons politiques ou économiques, mais on peut pas exclure le fait effectivement d'individus dormants ou de cellules dormantes qui auraient pu arriver en Europe par ce biais-là. Donc je peux vous assurer, c'est un risque qui est tout à fait présent dans l'esprit des services de renseignement et de la justice et qu'on essaie de traiter au mieux.
Deux questions sur l'application France Inter. Marguerite vous demande la chose suivante. On dit que les femmes doivent dénoncer leur agresseur à tout prix. Un an après MeToo, dénoncer son agresseur, agression sexuelle sur Twitter, reste encore beaucoup plus facile que dans un commissariat. Que répondez-vous?
Je pense qu'on a progressé, que c'est bien que la parole des femmes se libère et qu'à partir du moment où des crimes ou des délits ont été commis, il faut effectivement le dire pour que la police et la justice fassent son travail. Je crois que là-dessus...
Elle le fait bien.
À Paris, on a beaucoup progressé. Là-dessus, on a engagé un travail, plus 28% d'augmentation des plaintes en cette matière. On a engagé un travail depuis l'automne dernier qui a consisté à moyens identiques à corriger les défauts et à chasser ce que j'appelle les angles morts. Donc en s'attachant... Faire en sorte qu'une victime qui vient dénoncer ne se voit pas entendue à plusieurs reprises avant de trouver le bon service de police. Ce service, on s'est mis en mesure de le désigner beaucoup plus rapidement. On fait conduire par les commissariats la victime à un service de PJ, si c'est la PJ qui va travailler. Enfin, on travaille mieux avec les hôpitaux pour que les victimes qui se présentent dans les hôpitaux après avoir été violées, alors qu'elles n'ont pas déposé plainte, soient véritablement traitées. Si elles déposent plainte, on a des liens avec le commissariat ou avec le service de police judiciaire. On prend toutes les mesures de conservatoire en termes d'analyse, de conservation des vêtements. On a beaucoup travaillé là-dessus.
Et
je pense franchement qu'on a progressé.
Que faut-il améliorer alors? Marguerite, elle dit qu'il faudrait encore mieux écouter apparemment, être reçu dans les commissariats.
Améliorer l'accueil, s'attacher à assurer un accueil immédiat. On peut pas dire à une victime qui se présente dans un commissariat, madame, on est occupé, vous reviendrez demain. C'est pas possible de faire des choses comme ça. S'attacher à trouver le bon service et puis s'attacher effectivement à faire en sorte d'avoir une évaluation la plus précise possible de la victime qui va se présenter pour savoir si elle doit bénéficier d'une prise en charge particulière et personnalisée compte tenu de ce qu'elle a vécu. Et ça, on s'attache à le développer en liaison avec les associations d'aide aux victimes.
Allez, une dernière question, François Molins. Vous a-t-on réellement proposé de devenir ministre ?
Non, pas du tout.
Ah bon, d'accord. J'allais dire, et si oui, pourquoi avez-vous refusé ?
Je vous répondrai. Je vais vous faire une réponse. Je ne vais pas vous répondre parce que...
Répondez-nous factuellement. On a l'habitude de vous entendre énoncer des faits. Alors faites-le.
Tout cela relève du fantasme. C'est pas d'actualité. Moi, je suis magistrat.
On ne vous l'a pas proposé.
Non, on ne m'a pas proposé. Contrairement à ce que certains ont pu écrire, on ne m'a rien proposé du tout. C'est pas d'actualité. Moi, je suis magistrat. Je suis concentré sur mes fonctions judiciaires. Je suis déjà concentré sur mes prochaines fonctions judiciaires. Je serai installé le 16 novembre.
Mais vous auriez dit oui.
La question ne se pose pas pour le moment. Non, encore une fois, je suis dans
Est-ce que c'est efficace, plus
J'étais
efficace.
Dans l'attente d'une nomination à la Cour de cassation, j'allais pas courir à un lièvre différent.
Mais vous auriez dit oui, c'est...
En tout cas, vous n'avez pas dit non.
Merci en tout cas beaucoup, François Molins, d'avoir été ici en studio ce matin.